Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, coup de projecteur dans Escale sur la Journée internationale de la francophonie. Avec comme invité spécial Michaël Jean, au micro de Christina Silvero, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, revient sur la célébration de la journée du 20 mars, qui cette année dépasse le cadre des célébrations classiques et marque en fait le coup d'envoi d'un véritable printemps de la francophonie.
Si nous pouvons nous réjouir depuis cette grande conférence qui s'est tenue à Beijing en 1995 de certaines avancées, si nous avons pu constater également lors de la conférence des femmes de la francophonie, la deuxième conférence que nous avons tenue l'année dernière, début novembre à Bucarest, nous voyons aussi sur le terrain des femmes dynamiques, des femmes qui s'imposent dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'innovation, de la création, de l'entrepreneuriat, de la croissance, du développement, des femmes qui s'investissent dans des domaines et qui s'imposent avec beaucoup de succès. Nous pouvons aussi certainement nous réjouir de certaines avancées au niveau de la reconnaissance des droits des femmes. Mais cela dit, nous ne serons jamais satisfaites, jamais, tant qu'il y aura ces millions de femmes qui, elles, sont encore dans des situations extrêmement précaires. Et nous pensons en particulier à ces femmes en milieu rural qui portent pourtant des filières importantes de l'économie de leur pays, qui sont des femmes engagées dans la production agricole, la transformation des produits, mais qui malheureusement ne sont pas suffisamment soutenues à hauteur de ce qu'elles produisent et à hauteur de leurs efforts. Donc, je suis ravie de voir qu'à cette 62e session, que l'on mette l'accent sur cette dimension. Et nous, avec la stratégie économique et numérique pour la francophonie, nous soutenons beaucoup l'entrepreneuriat féminin. Nous soutenons beaucoup l'entrepreneuriat des jeunes. Nous soutenons beaucoup ce que les femmes réclament, c'est-à-dire un passage à l'échelle, que puissent être à leur côté en accompagnement avec les moyens nécessaires pour les amener vraiment à une plus grande reconnaissance et une plus grande compétitivité pour aboutir sur certains marchés. Et les femmes rurales peuvent compter en tout cas sur ce que nous sommes en train de déployer, c'est-à-dire tous ces dispositifs d'incubateurs, d'accélérateurs, d'espaces collaboratifs pour maximiser de manière qualitative et accompagner adéquatement les activités économiques portées par les femmes.
Alors justement, l'un des problèmes signalés, c'est le manque d'accès aux ressources productives et la francophonie est très fortement engagée. Vous vous êtes rendu sur le terrain, vous avez évoqué quelques exemples, notamment à Goubé au Niger ou Touba Ndiaye au Sénégal. Qu'avez-vous constaté? Comment se répercute ce manque d'accès aux ressources productives au niveau du concret, du quotidien, dans la vie de tous les jours de ces femmes?
Ce qui est très intéressant de ce que nous constatons sur le terrain, et chaque fois nous tentons aussi avec les pays que nous accompagnons, mais vraiment dans un processus de co-construction, de rassembler les chambres de commerce et d'industrie, et beaucoup de femmes, y compris des zones rurales, sont présentes. Elles sont très articulées, elles sont organisées. Et pour ce qui est, par exemple, de ce que nous avons pu produire et accompagner au Niger, par exemple, avec les femmes de Goubé ou encore les collectivités de Bandé dans la région de Zinder, c'est l'exemple parfait de cette alliance que l'on établit entre les jeunes et les femmes, entre les efforts investis pour soutenir les compétences en matière de numérique et de nouvelles technologies et l'appui concret sur le terrain aux activités qui sont portées par les femmes. Goubé, l'exemple est magnifique. Nous avons l'un de ces jeunes doués, dédiés aux nouvelles technologies et au numérique que nous accompagnons, qui a créé un système de télé-irrigation. C'est-à-dire que vous savez maintenant, les téléphones portables sont très répandus, même les femmes et les populations en région rurale disposent de ces téléphones, et qu'elles soient lettrées ou illettrées, les femmes maraîchères de Goubé, avec leur téléphone, avec le système de télé-irrigation, peuvent, même à distance, même si elles sont en train de vendre de leurs produits dans le pays voisin ou n'importe où sur les marchés locaux et régionaux, en composant trois chiffres, démarrer et arrêter le système d'irrigation au goutte à goutte sur leur champ. Cela veut dire qu'avec ce système qui demande très peu de moyens, ce n'est pas coûteux, et pour la capacité énergétique, ça demande uniquement une toute petite plaque solaire, ça leur fait gagner du temps, elles ont triplé leur surface de culture, elles ont d'emblée plus de revenus également, et leur fille qui était à la corvée de l'arrosage, et l'on sait à quel point c'était pénible, ne pouvait pas aller à l'école. Donc, dès lors, avec ce dispositif, les filles maintenant vont à l'école, ont des perspectives d'avenir, l'horizon se dégage pour elles, certaines rêvent vraiment d'une vie professionnelle. Les mères sont soulagées parce que d'une part, elles veulent que les filles échappent à ce qu'elles, elles ont eu à subir, c'est-à-dire au mariage forcé, aux grossesses précoces. C'est très intéressant de parler et à ces adolescentes, donc les filles, et à leur mère. Et leur mère disait qu'elles ne veulent absolument pas que les filles aient à vivre ce qu'elles, elles ont eu à vivre. Et ce qui est formidable, c'est que cela a un impact sur à la fois l'écosystème économique, la revitalisation de ces collectivités, avec l'apport des femmes, les femmes qui ont plus de revenus, qui gagnent du temps pour faire autre chose, pour s'adonner à d'autres activités, voir leurs filles aller à l'école, voir leurs droits aussi protégés et garantis.
Et l'idée est venue d'un jeune homme.
Oui, voilà, l'idée est venue d'un jeune homme. Nous encourageons les filles aussi à entrer dans ces domaines de l'innovation, du numérique et des nouvelles technologies. Mais c'est de voir cette solidarité qui s'engage entre la jeunesse et les femmes parce que ce sont les deux axes prioritaires que nous avons retenus et tout nous donne raison. Et du fait que et les jeunes et les femmes sont confrontés aux mêmes difficultés, l'accès au financement pour pérenniser leurs initiatives et leurs projets économiques, la vraie reconnaissance pour que l'on sache à quel point rien n'est possible au niveau de la croissance et du développement sans l'apport de ces forces vives que représentent les jeunes et les femmes. Et c'est formidable d'avancer de cette manière et en étroite collaboration. Donc la francophonie des solutions et la francophonie des peuples, c'est comme ça qu'elle s'articule, c'est comme ça qu'elle se vit sur le terrain.
Est-ce que vous avez un ordre d'idée de l'impact économique en chiffres des femmes lorsqu'elles ont accès justement à ces ressources productives ou qu'elles arrivent à se libérer justement pour avoir d'autres activités?
D'emblée, le FMI le dit, l'OCDE le dit, la Banque mondiale, toutes les études sur le sujet. Dès lors que vous investissez dans ce que portent les jeunes et les femmes, cela a un impact direct sur la croissance et sur le PIB des pays. Je pense qu'on en est très très conscient et c'est pour cela que nous ne pouvions penser stratégie économique sans vraiment une focalisation et un soutien direct à ce que les jeunes et les femmes produisent. D'autre part, nous y allons aussi avec une dimension régionale. Je viens, par exemple, de rencontrer et de discuter avec la ministre responsable justement de la condition des femmes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà un pays qui a su déployer sur tout son territoire des centres de formation professionnelle totalement dédiés aux femmes. Et ce que nous voulons mettre de l'avant, c'est amener vers cette centaine de centres déployés sur tout le territoire, aussi des dispositifs de type incubateur, accélérateur, espace collaboratif, qui viennent rassembler des très petites et moyennes entreprises dans des filières données et qui bénéficient de ce que nous pouvons apporter en renfort. Par exemple, des certifications, des labels, savoir produire certaines choses, mais sur des standards de qualité pour rejoindre des marchés et pouvoir y arriver de manière plus robuste.
Apporter une plus-value.
Et agir ainsi sur toute la chaîne de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que cet après-midi même, ici aux Nations Unies, à l'initiative de la Côte d'Ivoire, d'autres femmes de pays de la région qui sont par exemple sur ces mêmes filières, prenons le karité, prenons le coton, prenons le cacao, prenons le café et prenons l'anacarde, donc la noix de cajou, et qui peuvent penser une dynamique conjointe régionale pour avancer sur ces productions que ces femmes, ces jeunes, ces collectivités rurales portent avec beaucoup d'énergie. Donc là encore, lorsque avec nos plaidoyers, avec nos démarches, nous allons vers les institutions financières comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, nous pouvons également ensemble, avec toutes ces synergies que nous engageons, agir sur ces filières de production, sachant que dans la francophonie, il y a à la fois une offre qui peut être bonifiée de manière qualitative et sur toutes les chaînes de valeur, et une demande. Donc l'idée, c'est d'établir les passerelles. Et parlant de passerelles, nous avons lancé ce 8 mars une passerelle de réseautage pour les femmes entrepreneurs de l'espace francophone. Et c'est la plateforme qui a été saluée comme l'une des plus innovantes et des plus complètes que l'on connaisse.
Belgique, Bénin, Louisiane, Maroc, Mali, Martinique, Guyane française et Mauritanie, Burkina Faso, France.
La francophonie s'engage énormément donc sur l'autonomisation économique des femmes. Et il y a eu ce plan d'action qui a été adopté en marge de cette 62e session. Alors, c'est un plan qui est sur donc, deux volets, notamment la création d'un environnement favorable sur le plan juridique, mais aussi par rapport à des politiques économiques et sociales, dont la répartition des tâches familiales.
Tout à fait. Oui, ce qui était très intéressant, même à la conférence de Bucarest, c'est que les femmes sont arrivées là avec beaucoup d'assurance. Et le thème, c'était vraiment « les femmes s'imposent ». Mais les hommes présents, y compris les ministres que nous avons rassemblés à la même occasion, et certains étaient des hommes, et pas seulement des ministres responsables de la condition féminine, mais aussi des ministres des Finances et du Commerce, les hommes s'engagent aussi. Et il faut que ce soit à tous les niveaux. C'est-à-dire que les femmes se sentent aussi au niveau du quotidien, plus appuyés aussi par les hommes. Que les hommes jouent pleinement leur rôle aussi, lorsque les femmes le demandent, de mentors. Ils ont contrôlé des espaces, ils ont vraiment dominé sur plein d'espaces où les femmes maintenant s'imposent. Et l'idée du partage est très très importante.
Sinon, donc, ça fait double tâche quand même pour la femme.
Ça fait double, triple, quadruple tâche. Et là, je pense que par simple intelligence, il est important pour les hommes de comprendre, parce que le contraire est déraisonnable, que s'associer aux femmes, c'est gagnant. Et je crois qu'au niveau, par exemple, des chefs d'État, rien que le fait que le sommet des chefs d'État et de gouvernement de Dakar, en 2014, et c'est à ce moment-là que j'ai été élue, a été sur ce thème très important, les femmes, les jeunes, vecteurs de paix, acteurs de développement. C'est la prise de conscience que sans une reconnaissance pleine et entière de ce que les jeunes et les femmes ont à offrir et de leur contribution, on fait fausse route. Donc tous ces pays qui se donnent des plans de développement social et économique et d'émergence savent qu'aucun de ces plans n'est réalisable sans un investissement majeur dans le capital humain que représentent les jeunes et les femmes. Alors cette stratégie, dans le prolongement du sommet de Dakar, mais je dirais aussi ce tout dernier d'Antananarivo, où l'on parlait de croissance partagée, de développement responsable, et dès lors qu'on dit ça, ça veut dire plus inclusif, assurément inclusif.
Mais au quotidien, dans le couple, dans la famille, ouais, ça représente énormément de changements de comportement et de tradition.
Mais je crois que ce qui est intéressant, par exemple, avec tout le travail que nous faisons avec les jeunes sur l'éducation civique, l'éducation citoyenne, mais aussi sur le rapport aux femmes. Vous savez, même le mouvement MeToo, moi aussi, ça a amené les filles à dire, ces comportements-là, sexistes, ces violences ne sont pas acceptables. Et à en parler également avec leurs amis, les garçons, avec les jeunes hommes, qui sont saisis aussi par cette prise de parole plus affirmée des filles et des femmes. Donc cela devrait, je pense, avec cette nouvelle génération, créer un dialogue, une relation plus respectueuse des hommes, des garçons envers les filles et les femmes. Et c'est un travail qui commence dès le plus jeune âge. Donc, nous misons sur cette jeune génération. Vous voyez, sur toutes les activités que nous faisons avec les jeunes, même à travers le mouvement Libre Ensemble, très important, les garçons et les filles sont ensemble, les hommes et les femmes sont ensemble. Et c'est ensemble qu'ils s'associent dans la réflexion autour justement des valeurs, autour du respect, respect de la diversité, mais respect aussi au niveau de la relation entre hommes et femmes. Donc voilà, moi je trouve intéressant que cette stratégie que nous allons présenter aux chefs d'État et de gouvernement au prochain sommet qui va se tenir en octobre à Erevan en Arménie, et dont le thème est vivre ensemble. Mais vivre ensemble, c'est à tous égards, à la fois vivre ensemble dans le respect de nos différences, mais vivre ensemble, y compris au quotidien, entre les hommes et les femmes, et de manière, je dirais, plus respectueuse. Et d'emblée, cela crée aussi des choses plus intéressantes sur le plan aussi de nos sociétés.
Voilà, et c'est avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, que se referme Escale. Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Christina Silvero et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.